Chrétienté qui est née de l'alliance entre homme et homme. C'est pourquoi dans le langage des rabbins, on va trouver cette désignation. Édom, c'est Rome. Rome a deux étapes dans son histoire, la Rome païenne impériale et la Rome chrétienne. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir derrière ce conflit comment jouent les principes des vertus que j'ai énumérées tout à l'heure. Voilà, vous allez le visualiser par vous-même. Ismaël hérite d'Abraham dans sa nature la vertu de charité. Ce qui lui manque, c'est la vertu de rigueur, de la justice. Or, lorsque la descendance d'Ismaël devient musulmane, après Mahomet, l'islam, c'est précisément cette vertu qu'elle prend comme définition de l'idéal religieux. En arabe, la religion, ça se dit « el-din », le même mot que le mot hébreu pour dire « la rigueur de la justice ». Lorsque le musulman est sensible à la valeur qui lui manquait en tant qu'ismaélite, il prend comme religion le din. Est-ce que c'est clair? Ismaël hérite Hesed dans sa nature d'Abraham. Il y a un indice, l'hospitalité arabe. Surtout les Nord-Africains qui ont vécu chez les Arabes en Afrique du Nord le savent, surtout les Marocains. Il y a une vertu de l'hospitalité, mais en dehors de la morale, chez Ismaël. Donc il a Hesed en lui. Ce qui lui manque, c'est din. Lorsqu'il fait tshuva vis-à-vis du Dieu d'Abraham, sa religion, c'est le din. Est-ce que c'est clair pour l'islam? Et ça fait un comportement religieux qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Parce que chesed plus din, ça fait quand même pas le judaïsme. Mais j'essaie de vous décrire la manière différente dont ces familles d'Abraham vont retrouver, du point de vue de leur histoire, cette unité des valeurs qu'ils avaient perdues. Ismaël, c'est que chesed. Lorsqu'il devient islam, il prend le din comme religion. Et bien chez les chrétiens, c'est l'inverse. Rome, c'est le din par excellence, le droit romain. Rome, c'est, je ne sais pas si vous connaissez un peu la civilisation romaine, je pense que vous avez étudié ça dans vos études en français, c'est le droit qui se substitue à la justice, qui se substitue à la justice dans le sens moral. La légalité qui se substitue à la moralité. Ça, c'est l'axe de la civilisation romaine, le droit. Vous voyez à quel point ça fausse le problème moral de la loi. La loi romaine, c'est la loi légale, c'est pas la loi morale. Ça ne veut pas dire qu'un romain ne peut pas être moral, mais il l'est à l'échelle individuelle. La civilisation romaine a pour axe de civilisation le droit. En fin de compte, ça engendre toutes ces sociétés qui sont légalement barbares. Je crois qu'il y a des études, d'ailleurs, quand j'étais fait, mais il y a une ligne qui va de Rome au nazisme. C'est le Saint-Empire romain germanique. Ça finit par aboutir à cette conception du droit qui mène au nazisme. C'est-à-dire le droit qui est l'antimoral. Parce qu'à l'origine, le droit est dégagé de la moralité. Vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes problèmes. Alors lorsque Rome a cherché le chemin de son repentir, elle a cherché comme définition de l'expérience religieuse, précisément la charité. Vous voyez cette complémentarité, okay? Le fait que l'idéal religieux du chrétien soit la charité, ça dévoile que c'est la vertu qui lui manque. Le fait que l'idéal religieux du musulman soit la rigueur, ça dévoile que c'est la vertu qui lui manque. Alors voilà que Israël, dès l'origine, est accompagné par deux rivaux qui sont des approximations d'identité et c'est riche en rivalité. Et effectivement, dans l'histoire, nous avons des démêlés avec l'islam d'un côté, avec la chrétienté de l'autre, qui les deux réclament l'identité d'Israël, chacun à sa manière. Vous comprenez à quel point, du point de vue de l'histoire israélienne qui recommence, toute compromission avec la chrétienté d'un côté ou avec l'islam de l'autre, c'est un suicide d'Israël. Et d'ailleurs, on le sent dans tous les événements politiques qui sont en train de se dérouler. Nous vivons la même histoire et nous sommes dans une phase de cette histoire. On sent bien que l'Israël légal, enfin le gouvernement israélien actuel, ça ne durera pas longtemps, est dans une voie qui mènerait au suicide d'Israël face à l'islam ou à la chrétienté. Est-ce que c'est clair tout ce que je vous dis là? On n'est qu'à suivre d'ailleurs ce qui se passe autour de Jérusalem. Je vais vous donner la dernière chose qui m'a frappé hier, que j'ai entendu à la radio. le Sénat américain a changé de majorité, il y a maintenant une majorité républicaine. Et alors, le chef, le porte-parole de la majorité républicaine au Sénat américain a décidé de mettre l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Qui est contre? Le gouvernement israélien. Pourquoi? Parce que ça risque de le mettre mal avec les Arabes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une espèce de... Pendant 2000 ans, on a attendu que Jérusalem soit reconnu comme capitale de l'État d'Israël. Et maintenant que l'Amérique est prête, oui, il y a le bon Dieu derrière. Mais maintenant que l'Amérique est prête, qui est contre? Le gouvernement d'Israël. Pourquoi? À cause d'Ishmaël. Vous avez remarqué ça? Hein? Voilà ce qu'on est en train de vivre. C'est pourquoi il faut se méfier de tous ces rabbins qui sont, au nom de la Torah, les alliés du gouvernement israélien actuel. Il y a quelque chose de trouble là-dedans. Je reviens au sujet. Alors vous voyez que, dès l'origine, nous sommes accompagnés par deux espèces de rivalités, une Ishmaël, l'autre Esav, dans une histoire qui s'est développée à travers des milliers d'années et qui culmine au point de rencontre de la fin de l'exil d'Israël. On voit que de nouveau, le problème de la chrétienté, c'est de nous réclamer l'identité d'Israël religieuse. Le problème de l'islam, c'est de nous réclamer la terre nationale d'Israël. L'héritage d'Abraham par la terre, l'héritage d'Abraham par le ciel, ça nous était réclamé d'un côté par l'islam, de l'autre côté par la chrétienté. Quand est-ce que cette réclamation est en travail, si j'ose dire, de manière très différente? C'est quand les Juifs redeviennent les Hébreux. Vous voyez, 2000 ans après, ça éclate. On est renvoyé à la même histoire. Je vous demanderai d'ailleurs pour la prochaine fois de lire, je vous donnerai la référence, de lire attentivement le verset par lequel on apprend que ce qui séparera Ishmaël de Isaac, c'est la terre d'Israël. Et ce qui est évidemment ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Par la suite, nous reviendrons au problème général de la différence de ces deux. Alors, je vous donne juste cette référence et je vous libère. Alors, ça, vous êtes dans la paracha de... Je vais vous dire tout de suite. Vous êtes au chapitre, il me semble, 22-23, je vais vous dire tout de suite. Non, avant, un peu avant. Voilà. Vous allez prendre le chapitre 21. Vous étudierez depuis le début du chapitre jusque au verset 10. Vous lirez même tout le chapitre, mais vous étudierez les 10 premiers versets du chapitre 21. Et en particulier, et en particulier, je vous demanderai d'étudier le verset, les deux versets 8 et 9. Vous me direz ce que vous trouverez de caractéristique dans ces deux versets pour notre sujet. Qu'est-ce qui sépare Ishmaël de Yitzhak? On étudiera ça la prochaine fois. Alors, je vous demanderai d'être tous ensemble à l'heure, hein, qu'on puisse commencer. Voilà, vous êtes libres.